When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver avec Stéphane Vrignot pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1.
Salut Gilles.
En plein jet lag, les traits tirés, les yeux à moitié ouverts, c'est dur hein, le Japon quand même.
Ouais mais le Japon c'est beaucoup plus facile à faire en horaire décalé que n'importe quel autre Grand Prix. Je pense ça reste l'un des Big Five, je vous le redis, avec Monaco, Spa, Silverstone et Monza. Ça fait partie des 5 grands circuits, c'est peut-être même dans le top 1 de beaucoup de pilotes.
Exactement. Alors évidemment, on va revenir sur le titre des constructeurs décroché par Red Bull. Énorme surprise à la fin de ce Grand Prix du Japon, où Red Bull a connu le firmament avec Max Verstappen et le purgatoire avec Sergio Perez. On va parler évidemment aussi de McLaren avec deux pilotes sur le podium. Est-ce que McLaren est devenue tout simplement la deuxième force du podium? C'est la question à laquelle on essayera de répondre avec Stéphane. Et puis on reviendra aussi sur ce qui s'est passé en toute fin de Grand Prix, même après le drapeau à damier chez Alpine, la crise de nerfs de Pierre Gasly, à qui on a demandé de céder sa 9e place à son coéquipier Esteban Ocon. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire.
Céder ou rétrocéder.
Oui, c'est ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi à la fois on a pris cette décision et aussi pourquoi tant d'énervement alors qu'au final ça change pas grand chose. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, évidemment si ça vous plaît, et aussi à vous abonner et de cette manière-là vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui Stéphane en évoquant... Ça paraît une évidence, mais le titre des constructeurs décroché à l'issue de ce Grand Prix du Japon par Red Bull, avec la victoire de Max Verstappen, qui a retrouvé le chemin du succès après une éclipse à Singapour. Christian Horner avait dit vrai, on s'était posé la question la semaine dernière, à savoir si l'instauration et le durcissement des directives techniques étaient à l'origine des soucis, des contre-performances des RB19. Christian Horner avait dit non, pas du tout. Et bien ce qu'on retiendra, c'est qu'au Grand Prix de Singapour 2023, Christian Horner a dit la vérité.
Et Verstappen nous fait sourire rétrospectivement puisqu'il avait dit « Nous manquons de temps de soufflerie ou de ressources en soufflerie et c'est pour ça que la concurrence revient sur nous. » Là aussi, c'est pareil, fermez le débat, on verra ça l'an prochain. Vous avez expliqué que ça serait l'enfer cette année. L'enfer est très présentable pour Red Bull cette année quand même.
Exactement. Ce week-end, le double champion du monde a même signé la pole avec plus d'une demi-seconde d'avance sur son plus proche rival. Il n'a quasiment pas été inquiété. Peut-être les premiers mètres de course avec les attaques conjuguées de Piastri et de Norris. 13e victoire de la saison. En fait, je ne sais pas s'il y a véritablement lieu de s'éterniser sur la performance du Néerlandais. 19 secondes d'avance à l'arrivée sur Norris. Un week-end qui a été maîtrisé, en fait.
Ce qu'il en ressortira peut-être pour l'histoire quand même, c'est que Christian Horner a dit Max a peut-être fait l'un des plus beaux tours de qualification de l'histoire de la Formule 1. Il a dit je vous invite à revoir ce tour, spécialement dans les S du premier secteur, ce qui était absolument hallucinant. Et puis il colle plus d'une seconde au bilan des meilleurs tours en course à Norris. Là aussi, il était vraiment sur une autre planète. Donc, il a fait son petit show. Le timing est parfait puisque Red Bull est couronné sur les terres de son motoriste Honda. On croit que tout ça est écrit. Pas du tout. C'est une belle coïncidence. Et c'est chouette pour un circuit comme Suzuka où on a vu encore, le public est juste extraordinaire.
Exactement, ouais, avec ces déguisements, cette ferveur qui est vraiment exceptionnelle. Par la même occasion, on notera quand même que c'est la 6e couronne constructeur décrochée par Red Bull. à comparer au 16 de Ferrari, hein, qui reste évidemment le constructeur le plus titré. Williams à 9, et là on se dit que bah, finalement, à moyen terme, on peut rapidement revenir sur Williams. McLaren et Mercedes ont 8 titres chacun, et Lotus 7, ça sera le prochain objectif des hommes de Christian Horner pour l'année prochaine, mais ça installe quand même cette équipe désormais dans un club très très fermé.
Oui, bah, quand on voit qu'il commence à chatouiller un petit peu les statistiques de Lotus, ça parle à beaucoup de monde encore. Hein. Lotus était l'une des 5 grandes références de la Formule 1, les écuries historiques. Lotus a 6 titres pilotes et Red Bull en aura bientôt 7 aussi, donc ils vont passer devant, ils ont plus de victoires Red Bull. Au début des années 2000, franchement, on se disait que c'était une écurie qui était là pour le marketing. Ils se sont vraiment installés durablement en Formule 1. Ils sont là pour longtemps, puisque maintenant, ils ont décidé de fabriquer des moteurs. Donc, c'est un autre modèle, c'est quelque chose de différent. C'est une touche supplémentaire dans l'histoire actuelle de la Formule 1, des polémiques, enfin plein de choses, des contrastes aussi, oui. Qui assumés. Bon. Donc, tout ça fait un petit tableau d'ensemble intéressant.
Tu parlais de contraste,
oui,
Stéphane.
Tout à fait.
On va y revenir parce que pendant ce Grand Prix du Japon, chez Red Bull, il y avait deux salles, deux ambiances. Hein, avec un Max Verstappen qui vraiment marchait sur l'eau, qui découpait les tours avec son katana RB19. Et puis Sergio Perez qui, lui, roulait sur un nacho, un peu trop pimenté, manifestement. Pénalité, course à l'envers.
Double pénalité, oui, 5 secondes.
Ouais. Et en fait,
Et 2 points de retrait sur la super licence.
Ouais, ça commence à faire beaucoup.
Le total monte à 7 sur 12. Faut pas finir l'année comme ça sur ce rythme-là parce que pour le coup, il sera sur la touche.
Et tu me disais, Stéphane, en préparant ce podcast, que ça te rappelle finalement peut-être la pire période de Sergio Perez. Et il faut remonter à loin, hein, au début de la carrière de Sergio Perez.
Il y a 10 ans. Ouais. Et cette saison-là me fait penser en un condensé vraiment de ce qu'il a vécu chez McLaren en un petit peu. Pire, vraiment, en termes de résultats. Button le rendait fou chez McLaren, qui avait mis fin à l'expérience au bout d'un an. Et là, on ressent à peu près les mêmes choses. Et on se pose la question, en fait, que fait-il encore là? Jusqu'à quand va-t-il tenir? Est-ce qu'il n'est pas temps d'appuyer sur le bouton?
On rappelle qu'il a quand même un contrat pour 2024. Hein. On avait fait l'état des lieux de la grille de départ pour l'année prochaine. Sergio Perez, il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en
2024. Il a un contrat et Helmut Marko a pris le soin de bien préciser que...
Il a vérifié où était le Mexique.
Un contrat n'est pas une garantie d'emploi en Formule 1. Voilà. Alors, si, c'est peut-être une garantie d'emploi comme pilote réserviste, de simulateur, de tout ce qu'on veut. Mais en voulant dire, attention.
On a le sentiment, puisque Red Bull a décroché le titre des constructeurs au Japon. En fait, on a l'impression que Red Bull est champion constructeur en avançant sur une jambe. Sur les 11 derniers Grands Prix, 281 points inscrits par Max Verstappen, 99 par Sergio Perez. Ça fait moins de 10 points par Grand Prix quand on est au volant de la voiture qui est championne du monde. Ça fait quand même un peu désordre.
C'est la première fois, je pense, qu'on voit un pilote champion du monde des constructeurs.
J'ai dit quoi? Je suis désolé. Mais en fait, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Je ne l'avais pas compris du tout.
Il est champion très tout seul. Rien ni personne à côté de lui.
C'est-à-dire que si tu enlèves les points marqués par Sergio Perez, est-ce qu'il serait champion des constructeurs?
Pas encore, mais de toute façon, il le serait à terme. Il met 7e à Tcheco sur ce circuit de pilotage, de technique. Red Bull a expliqué qu'il n'était pas dedans dès les essais libres 1. La voiture était déséquilibrée et il ne s'en est jamais sorti. Donc, il est en classe B, Tcheco.
Mais je te confirme, il serait champion des constructeurs tout seul, Max Verstappen. Il a 400 points, Mercedes en a 305. Donc, en fait, il n'a pas besoin de son coéquipier, ce qui tombe plutôt bien. Mais en fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui se sont télescopées dans l'univers de chez Red Bull ce week-end. Je disais, hein, c'est deux salles, deux ambiances au sein de l'équipe même, l'équipe mère Red Bull. Et puis pendant ce temps-là, on annonce chez AlphaTauri qu'on reconduit Yuki Tsunoda pour la saison prochaine, qu'on officialise donc Daniel Ricciardo aussi pour 2024, alors qu'on a un William Lawson. Je suis désolé, mais le jeune néo-zélandais, il me bluffe. 9e à Singapour, la 11e à Suzuka. On a été marqué par la même chose, Stéphane, c'est cette explication dans le premier tour. Il est à Suzuka sur le terrain de Yuki Tsunoda, qui est pilote Honda. Le circuit appartient à Honda. Et la bagarre du premier tour, c'est presque un affront.
Ouais, il a marqué son territoire. La question qu'on se pose, Gilles, dans tout ça, vraiment, c'est est-ce qu'il ne faut pas remplacer Pérez, tout simplement,
par Lawson,
très vite. On nous explique, chez Red Bull, on nous a dit ça ce week-end, qu'il y avait 5 pilotes pour 4 places. Mais qui est en trop dans cette histoire? Alors, Pérez, responsable de leur premier abandon cette saison, tellement ça a été une histoire lamentable. Pérez, ils ont fait un pari sur lui. C'est le premier pilote numéro 2 depuis très très longtemps, signé 2 ans de suite. Ah ben, mauvaise pioche. Ils l'ont signé pour 2023-2024. Souvenez-vous, l'année dernière, ils ont dit bah, ça va lui donner de la confiance, etc. La preuve que ça ne marche pas.
Ah, ça avait quand même marché sur les 3-4 premiers Grands Prix.
Bien sûr, les 4 premiers, parce que Verstappen a eu quelques soucis sur des malentendus. Pérez était parti de la pole position, il avait concrétisé. Et puis derrière, on a absolument rien vu. Mais surtout, si on parle aujourd'hui, là maintenant, de Lawson, c'est qu'on a eu une annonce absolument lunaire. Ouais. C'est-à-dire, Ricciardo, c'est la logique. Re-signé pour 2024 chez AlphaTauri, et puis Tsunoda confirmé. Alors Ricciardo, Horner a redit ses arguments, c'est une somme d'expérience hallucinante, deux fois troisième du championnat du monde, quand même de la motivation, un feedback qui est très très précieux. Donc bref, il a dit c'est une grosse référence. Par contre, Tsunoda, moi je trouve, excuse-moi, je ne peux pas le dire autrement, je trouve que c'est une prime à la médiocrité. Je ne sais pas comment dire autrement, en tous les cas, c'est une sorte d'officialisation que Honda a le droit de placer un pilote de son choix dans un baquet de titulaires tout le temps. Tsunoda,
ces trois dernières saisons, c'est ça moi qui m'a vraiment impressionné.
C'est 32 points en 2021, c'est 12 points en 2022 et c'est 3 points en 2023 après 16 courses plus quelques courses sprint. Bref, c'est une régression, mais comme on en a rarement vu, n'importe quel pilote serait sur la sellette depuis longtemps avec un tel bilan. Et de son côté, Helmut Marko ne bronche pas. Il ne dit pas attention, Tsunoda, non, il l'a déménagé, ils lui ont donné un programme d'entraînement, ils ont serré les boulons, bon, et puis il y a Lawson qui arrive, et puis tout de suite, qu'il l'enrhume. Donc, non, franchement, il a sa place, mais il ne la mérite pas, clairement, au vu de ce que savent faire d'autres pilotes, et puis, bon, il y a l'exemple Lawson qui est hallucinant. Alors, je te disais, Tsunoda, pour moi, devrait être sur la sellette, mais il y a un pilote qui est réellement sous la sellette, c'est Pérez.
Ah oui.
Parce que
Christian
Horner, qui a le final cut sur le choix des pilotes, Helmut Marko, on sait qu'il fait la pluie et le beau temps concernant les jeunes pilotes quand il faut les lancer, mais c'est Horner qui dit oui ou qui dit non. C'est Horner qui, après quelques tours de Ricciardo à Silverstone, a dit « Allô, c'est bon, il est bon pour revenir, on le met dans la voiture dès qu'on peut. » Très bien, dans l'AlphaTauri. Et là, il a dit très clairement « Il est sur la sellette ». Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, pour moi, il faudrait le remplacer par Lawson. Dès le prochain Grand Prix.
En fait, moi, j'ai le sentiment, Stéphane, que si Sergio Pérez reste au volant, c'est surtout parce que y a le Grand Prix du Mexique qui se précise, mais qui n'est pas pour tout de suite. Il y a le Qatar, il y a les États-Unis avec
Austin.
Oui,
donc il y a aussi quand même, il a beaucoup de supporters dans cette partie.
On est quand même au sud
des Amériques.
On est quand même au sud des États-Unis. On n'est pas loin du Mexique. Et il y aura donc ce Grand Prix du Mexique. Et j'ai l'impression que si ces épreuves avaient eu lieu au début de la saison, que là, on se poserait encore plus et de manière encore plus ouverte la présence de Sergio Pérez au volant de la RB19 sur le reste de la saison.
Un argument fort. Helmut Marko, je pense que ça lui traverse l'esprit quand même et ça le travaille, cette histoire de calendrier. Comme tu l'as dit, il n'y aurait pas le Mexique, je pense que ça serait plié. En 2019, quand Gasly commence à déjouer chez Red Bull, il met Albon dans la voiture après 12 Grands Prix en tant que débutant chez Toro Rosso. Ouais. Il y va, mais franco, clairement. Et là, pour moi, je pense qu'il se pose aussi la question, est-ce que je ne mets pas Lawson? Il y a ce blocage du Grand Prix du Mexique qui pose un vrai problème et Sergio Pérez a trouvé un super avocat en la personne de son papa, Antonio Pérez, qui a dit « Attention, Checo, c'est le seul pilote latino du plateau, en voulant dire qu'il a une valeur marketing extraordinaire, il a une base de fans fantastique, c'est super important pour la Formule 1. » En décodé, ça veut dire « Attention, il y a le Grand Prix du Mexique qui arrive et chez Red Bull, on a déjà fait une boulette. » À travers Helmut Marko qui l'a dit. Voilà,
oui, c'est pas chez Red Bull, il ne fait pas partie de Red
voilà.
Bull.
Donc, il y a une petite dette de ce côté-là. Alors maintenant, vont-ils oser? Et le papa Pérez a dit, la voiture est faite pour
Verstappen,
et c'est vrai, parce qu'il a dit qu'il a besoin d'un train avant très très fort, et Pérez, c'est l'inverse. Et tout ce qui est développé chez Red Bull, c'est vrai que ça va dans ce sens-là.
Bah, c'est logique.
Donc, après, quand tu es pilote numéro 2, tu essaies d'exister par rapport à ça et tu sais que tu n'es pas dans les petits papiers des techniciens, même s'ils essaient de développer la meilleure voiture. Mais quand c'est bon pour Verstappen, c'est bon pour tout le monde.
On se souvient des propos très forts d'ailleurs de Pierre Vacher qui avait dit on n'a pas aidé suffisamment Sergio Pérez.
Tout à fait.
J'avais trouvé ça très intéressant.
Red Bull qui fait un communiqué. On ne sait pas encore, ça tient aussi à la position de Ricciardo. Va-t-il être remis pour le Grand Prix du Qatar ? S'il n'est pas remis pour le Grand Prix du Qatar, la question ne se pose pas. Mais s'il est remis, qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais.
Alors, si Red Bull décide effectivement de déposer Checo Pérez, ils peuvent envoyer dans la foulée, et ça sera une première dans l'histoire de la Formule 1, Verstappen champion du monde.
Ah oui ?
Parce que Pérez a besoin de prendre des points à Verstappen pour empêcher, pour reporter le titre, repousser les chances du titre de Verstappen. Si là, Pérez est déposé juste avant, l'histoire est réglée aussi. Bon, ça serait un truc un petit peu bizarre.
Sébastien Loeb avait été sacré champion du monde sur son canapé avec le bras en écharpe, mais Max Verstappen, il peut être champion du monde, effectivement. Tranquillement chez lui si on enlève le volant de Sergio Pérez. Et alors, il reste quand même un volant peut-être pour Liam Lawson. C'est le deuxième volant chez Williams parce que là, on a encore eu un festival
de crash test
de Logan Sargeant. Et il va y avoir un bras de fer entre Toto Wolff et Christian Horner pour ce deuxième volant parce que la solution, c'est peut-être de mettre quand même Liam Lawson du côté de cette deuxième voiture chez Williams à la place de Logan Sargeant l'année prochaine, on parle.
Alors, ce qui est quand même assez marrant, c'est que Williams, c'est une écurie indépendante avec des vrais morceaux de Mercedes dedans, avec à la tête un patron qui vient directement de...
Je sais où tu veux en venir.
De chez Mercedes. Et... Marco avait réussi un premier joli coup en plaçant Albon à la place de Vries chez Williams, donc un pilote Red Bull. Et là, Red Bull s'apprête à essayer de placer un deuxième pilote avec Lawson, alors que Toto Wolff pousse pour mettre Mick Schumacher dans la voiture. Donc là, il y a un duel en ce moment. C'est assez drôle, mais par rapport à l'évidence, c'est vrai que c'est plutôt Lawson. Et De Vries, ça a été une mauvaise expérience quand même. C'était un pari qui a échoué, le pari de Toto Wolff. Donc, ça signifie que c'est plus Lawson qui tient la main. Et c'est vrai qu'on aimerait voir ça en prêt chez Williams. En plus, la voiture est devenue vraiment excellente. Albon, ce n'est pas quelqu'un de compliqué en termes de relations. Ils ont tous envie d'avancer dans le même sens. Donc,
ça serait sans doute la bonne solution.
Oui, tout à fait.
Enfin, sauf pour Logan Sargeant.
Oui, parce que pour l'instant, en fait, même Red Bull ne lui fait pas miroiter cette solution-là. Ils ont dit, pilote de simulateur, pilote de test, ça sera très, très bien pour l'an prochain. Je trouve que c'est un petit peu fort.
C'est rude.
Oui, tout à fait. Et puis, est-ce qu'il y aura... Après, une autre place, ça c'est encore compliqué parce qu'on se projette sur 2025, sachant que le partenariat entre Red Bull donc, et AlphaTauri se terminera fin 2025 et je ne vois pas Honda accepter de libérer la place de Tsunoda avant la fin du partenariat. Je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Ils auraient pu annoncer samedi Tsunoda pilote AlphaTauri en 2024 et en 2025 et c'était réglé. Quoi. Bon, donc ça va être un petit peu plus compliqué qu'on pense, mais... c'est un vrai cas de conscience, je pense. Et moi, je trouve que Helmut Marko a été assez proactif. Et je ne le vois pas jouer le statu quo quand même dans cette histoire parce que Pérez, il est nulle part. Quoi. Donc, il a jamais perdu du temps. Il n'a jamais accepté de repousser des échéances. S'il sait que quelqu'un n'est pas bon, il le sort de la voiture.
Donc, on va voir ça. Ça va se préciser là dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On va passer au cas de McLaren qui a quand même animé ce Grand Prix du Japon, d'abord en qualification avec, alors certes il y avait une domination au chrono de Max Verstappen, mais derrière la petite surprise c'est Oscar Piastri qui est venu surprendre son coéquipier Lando Norris pour aller lui shipper la place en première ligne aux côtés du double champion du monde. Et la question, c'est de savoir si, en fait, McLaren, qui était nulle part en début de saison, et on a vu avec des améliorations successives, l'équipe de Zak Brown remonter, si elle n'est pas devenue la deuxième force du plateau. Eh ben, j'ai fait le calcul sur les deux derniers Grands Prix, là, Singapour et Suzuka, qui viennent de s'enchaîner en 8 jours. Eh ben, c'est non seulement la deuxième force du plateau, mais on pourrait même dire la première force du plateau sur ces deux derniers Grands Prix, puisque McLaren a marqué 57 points, autant que Ferrari. Finalement, c'est Red Bull qui est un petit peu en retrait sur ces deux Grands Prix, avec seulement, entre guillemets, 40 points pour Red Bull. Et puis, au classement des constructeurs, McLaren n'a plus que 50 points de retard sur une équipe Aston Martin absolument en perdition. 4 points marqués sur ces deux Grands Prix pour Aston Martin. Bah, à ce rythme-là, McLaren va dépasser Aston Martin au classement des constructeurs. On s'intéresse au cas Oscar Piastri, Stéphane. Bluffant quand même.
Ce que tu dis juste par rapport à McLaren, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est qu'ils font tout ça sans directeur technique. Voilà, qui arrivera l'année prochaine. Rob Marshall, qui était un second d'Adrian Newey chez Red Bull, et ce qui laisse augurer une très très bonne voiture à partir de 2025.
Est-ce que ça sert à quelque chose pour l'instant, un directeur technique?
Oui, tout à fait. Et sachant aussi qu'ils ont changé de directeur d'équipe.
Oui.
Quand Andreas Seidel est parti donc, ils ont viré tout le monde. Et puis ça fait le job quand même derrière. En particulier Andreas Stella, un ancien ingénieur chez Ferrari de Fernando Alonso, si je ne dis pas de bêtises, et qui se révèle vraiment dans la conduite de l'écurie, parce que Zak Brown ne peut pas tout faire au quotidien, mais en tous les cas, bon, c'est remarquable. Et puis, Piastri, il a fait parler de lui quand même avant même les tours chrono, parce qu'il l'a signé pour 2025 et 2026. Donc, il est le deuxième pilote contracté le plus longtemps sur le plateau, hormis Verstappen, qui a un contrat jusqu'en 2028. Et si j'ai bien compris, il a un contrat ferme jusqu'en 2026 et des options pour 2 années supplémentaires. Ça veut dire que...
On y croit.
Zak Brown avait manœuvré pour re-signer Norris jusqu'en 2025 assez tôt, parce qu'il y a Toto Wolff qui commençait à lui tourner autour, et on se posait la question, est-ce que ça ne serait pas aussi un super pilote pour Red Bull, qui a dit depuis, c'est notre choix préférentiel, on verra ce que ça deviendra. Et là, il s'est dit, mais moi, si on prend Norris, il ne me reste que Piastri, et il faut aussi que je sécurise Piastri. Et c'était la démarche qu'il a adoptée. Là. C'est vraiment, et Piastri avait une option sur l'année prochaine, c'est du ferme maintenant pour 3 ans, très bien. Sur la piste, ce qui est remarquable, c'est qu'il est devenu le troisième pilote à partir de la première ligne à Suzuka, sur ce circuit qui est extrêmement technique, un circuit de pilotes et de techniciens. Le premier, c'était Jacques Villeneuve, au vent d'une Williams en 1996. Il avait fait la pole position. Et puis le deuxième, c'était Juan Pablo Montoya au volant d'une Williams en 2001, lui qui avait fait le deuxième temps.
Voilà. Ouais, alors ils étaient rookies, c'était leur première saison de
double vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. C'est quand même des gens qui avaient déjà du kilométrage au compteur.
C'était leur première saison de Formule 1, mais c'était pas des débutants. Moi, je veux bien les d'autres rookies qui sont partis en fait en première ligne. En Formule 1 au 21e siècle, donc depuis 2000. Tu vas voir que faut pas se croire arrivé pour Oscar Piastri. Il y a Lance Stroll.
Oui, d'accord.
Voilà, Azerbaïdjan 2017, Verstappen et Ricciardo. En fait, il avait fait le 4e temps, ce qui était quand même pas mal avec la Williams à l'époque. Verstappen et Ricciardo avaient été pénalisés, et donc il était parti de la première ligne, mais il avait fait le 4e temps. Nico Hülkenberg, Brésil 2010. Je sais pas si tu te souviens, scénario assez rocambolesque en qualification. Il avait carrément fait la pole, le pilote allemand. Lewis Hamilton, Bahreïn 2007. Bon, de toute façon, Lewis, il avait été dans le coup tout de suite. Et puis, Juan Pablo Montoya, qui, avant le Japon, avait été en première ligne en Autriche en 2001. Voilà pour vous dire quand même qu'il est dans des statistiques où on ne voit pas figurer Verstappen, où on ne voit pas figurer des Sébastien Vettel et consorts. On est vraiment là sur des standards qui sont très très hauts pour Oscar Piastri, qui s'est vite effacé au premier tour face à Lando Norris, qui s'est ensuite refait dépasser.
Ouais, un petit peu piégé, parce qu'il y avait une opportunité, et oui, il était sur la partie sale de la grille, sur la ligne, sur la rangée paire. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas du bon côté.
En tout cas, il a mis la pression sur Verstappen.
Tout à fait.
Donc
tout à fait. Et ça a ouvert le champ à Norris. J'aurais aimé qu'il attaque les premiers tours en deuxième
position.
Et moi,
j'imagine que c'était prémédité. L'idée que chez McLaren, on dise il y en a un qui attaque à droite, l'autre qui attaque à gauche, ça me semble parfaitement logique. Il faut évidemment réussir son départ pour pouvoir faire ça. Mais ça me paraît logique. Et ça a mis Verstappen un petit peu en difficulté. Il a admirablement géré ça, et une fois qu'il a passé le premier enchaînement en tête, on savait que ça allait être très très compliqué de le reprendre, mais il s'est retrouvé quand même longtemps ensuite avec le jeu des ravitaillements, des changements de pneumatiques. Ah bah oui, le décalage horaire. Il s'est retrouvé de nouveau devant Norris, qui l'a repassé. Bah, il a fait un Grand Prix plein et il s'offre son premier podium en Formule 1. J'ai envie de dire, bah, c'est l'acte de naissance de Piastri en Grand Prix.
Oui, il est seulement le deuxième débutant à figurer sur un podium à Suzuka, après Juan Pablo Montoya en 2001, qui avait terminé deuxième. Et bah, tout ça, ça veut dire que Piastri, quand même, il marque des points. Il marque son territoire en qualif, quand même. Sur les cinq dernières qualifs, il a devancé trois fois, il a battu trois fois Norris.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'il arrive. En début de saison, il y avait 3-4 dixièmes. Ça ressemblait à une petite punition. Et puis, il est arrivé doucement à 2 dixièmes et à se caler sur les performances.
J'aimerais bien approfondir un petit peu, parce que sur ces cinq dernières qualifs, est-ce que les deux où il est battu, c'est pas parce que Norris a des évolutions que lui n'a pas encore? Parce qu'on sait qu'il y a eu les toutes dernières évolutions, là, Norris les avait avec un Grand Prix d'avance, donc ce qui pourrait aussi expliquer un certain décalage. Ce qui est impressionnant, c'est que bah, il a les nouveautés, certes avec un Grand Prix de décalage, et à chaque fois, ça match. Il les exploite tout de suite.
Alors la dernière fois, c'était ce qu'on parlait, c'était pour Singapour, où Norris avait le nouveau package en exclusivité, et ça avait été le même décalage d'un Grand Prix pour installer les nouvelles pièces aussi sur la voiture de Piastri. Ça s'était déjà produit plus tôt dans la saison au Grand Prix d'Autriche. Et je regarde, je te le fais en direct sur les duels en essai, si je le retrouve.
Parce que Stéphane a des statistiques absolument sur tout. Et c'est assez admirable. Et là, il est en train de nous faire une démonstration de virtuosité.
Alors, nous disons sur le Grand Prix de Singapour, chez McLaren, c'est Norris qui s'était le mieux qualifié. Alors, peut-être que ça accrédite ta thèse. Effectivement, et plus tôt dans la saison, il avait aussi pris le pas en Autriche. Mais au Grand Prix suivant, Piastri avait eu le package aussi à Silverstone. Il avait été battu, donc ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça veut dire vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis, il y a une cote quand même d'amour. Il y a quelque chose aussi qui passe. On sent que Zak Brown, le boss de McLaren, choye un petit peu se protéger. Il a proposé, après la qualification en première ligne, à la maman de Piastri, de dire bah, « Vous pouvez en fait venir assister à cette course si ça vous dit ». Et la maman a gentiment décliné en disant « Je préfère quand même encore stresser à la maison plutôt que sur le circuit ». Mais quelque part, ça veut dire que McLaren, c'est une famille et qu'on prend soin vraiment des pilotes. On a envie qu'ils soient là, et Zak Brown apprécie beaucoup cette idée aussi qu'il a retenu dans certains propos récents de Norris, en disant « J'aime cette équipe, j'ai envie d'y rester ». Et c'est ça qu'on crée un cocon propre à développer le talent des pilotes. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable quand même, c'est la distance, le recul, le calme que ses patrons connaissaient déjà dans les catégories inférieures F3, F2. Un garçon qui est très analytique et là, qui a dit bah, « c'est pas ma meilleure course en Formule 1 ». Parce que je ne suis pas content de la gestion de ma gestion des pneus. Il a dit que sur un certain moment dans la course, il les avait mal gérés. Il a dit ça, c'est propre à la Formule 1 de proposer des courses comme ça où on a un challenge aussi difficile. C'est pas ce qui m'arrivait dans les catégories inférieures, et c'est là-dessus principalement que je dois travailler en priorité pour aller chercher ces 2-3 derniers dixièmes qui lui assureraient aussi en course d'être vraiment dans le match. Déjà par rapport à Norris, et puis d'aller chercher Verstappen.
Éventuellement.
Si les circonstances s'y prêtaient. Mais il est très, très lucide par rapport à ça. À la fin de son tour qualif, en rentrant, il était calme à la radio. À la fin de son podium, de son tour de
oui,
pour
oui,
rentrer
oui.
aussi,
on
c'est pareil.
On ne le sent pas transporté, quoi.
Oui,
il est content, mais ça s'arrête là. Et ça me rappelle ce que disait Jean-Paul Driot. Hein, et souvent, quand on regardait les jeunes talents, il nous disait, il faut savoir si c'est un cold fish ou pas, un poisson froid. Et il nous disait, c'est ces poissons qui savent nager dans l'eau froide et qui ne bronchent pas, qui sont là, mais qui, à la seconde où il faut attraper une proie, hop, s'active, et hop, la seconde d'après, redeviennent totalement impassibles. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands pilotes de Formule 1. Il en a déniché quelques-uns, le regretté Jean-Paul Driot, auquel on pense. Et oui, là, clairement, Piastri en fait sans doute partie. Un mot quand même sur Norris, parce que, alors oui, Piastri, c'est son acte de naissance, on l'a dit. Norris, j'ai presque envie de dire que ben, maintenant, c'est un candidat très, très sérieux à la victoire. Ça fait 4 fois qu'il termine deuxième sur les 7 dernières courses. Au classement des pilotes, si on prend les 8 derniers Grands Prix, hein, c'est celui qui a marqué le plus de points, à part l'inévitable Max Verstappen, mais 103 points marqués par Lando Norris, qui est devant Sergio Pérez au classement des 8 derniers Grands Prix, devant Lewis Hamilton, devant Carlos Sainz et sa victoire à Singapour, devant Charles Leclerc, et évidemment devant Fernando Alonso et George Russell, qui l'a dépassé aussi au classement. Bon, Lando Norris, ça y est, il y est. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant, finalement. 4 fois deuxième, bon, ça veut dire que maintenant, la prochaine étape, c'est la victoire et que ça peut pas être une surprise. Et en même temps, il est obligé de marquer un petit peu son territoire en revendiquant, finalement, bah, qu'on le laisse passer de la part d'Oscar Piastri. Parce que, quelque part, voilà, le chef, c'est moi, quoi. Et il faut le dire.
Il a appelé au 25e tour en disant, bon, bah, il me fait perdre du temps, je suis plus rapide. Au tour suivant, au virage numéro 1, Piastri lui a claqué la porte au nez, mais bien comme il faut. Et là, il s'est plaint en disant « c'est quoi ça ?» Et puis, au tour suivant, l'ordre était rétabli et Norris passait parce qu'il commençait à être sous pression de Leclerc. Donc, il ne fallait pas se mettre inutilement à portée de Leclerc et lui permettre de revenir. Mais oui, effectivement, Norris, il sait qu'il a bénéficié plusieurs fois cette saison de consignes claires. Alors, on l'a dit, il a eu l'exclusivité des nouveaux packages.
La primeur, avec
un Grand
cas.
Prix, la primeur, ouais. sur un Grand Prix avant Piastri. Et quand c'est arrivé, eh bien, Piastri n'a pas bronché. Donc ça, il sait qu'il peut le faire, mais je pense qu'il est en train de consommer ses derniers jokers de ce point de vue-là. Voilà, tout à fait. Et c'est là qu'on va avoir après quelques problèmes de riches et que les premières étincelles vont venir.
Chez McLaren, on connaît.
Le feu contre la glace. On va nous refaire un petit peu du Montoya Raikkonen. On verra bien, ou du Button à Hamilton,
ou
etc.
Ou mais du Hamilton Alonso.
On va revenir à la grande époque.
Ouais, donc, à Suzuka, attention, hein, oui. Parce que ils ont déjà donné.
Mais bon, pour l'instant, Norris est le leader reconnu et on sent vraiment que Piastri attend son heure.
Sauf que, on disait, il faudrait quand même que Zach Brown il le re-signe de manière sur le plus long terme, Lando Norris, et que finalement, ben, si Piastri monte en gamme, ça va peut-être ramener un petit peu à la raison Lando Norris, et éventuellement... se dire du côté de Zach Brown, bah, vu que j'ai Piastri plus jeune et qui commence à vraiment lui tailler des croupières, est-ce que j'ai vraiment besoin de débourser des millions et des millions pour garder aussi Norris? Enfin, oui. Je sais pas, je fais du team manager fiction, mais...
Oui, mais il a quelques problèmes quand même de réservistes, de pilotes qui viendraient des États-Unis et qui sont pas tout à fait d'accord, ou en tous les cas qui estiment qu'ils n'auraient pas leur place ou qu'il n'y a rien pour eux dans les prochaines années. Donc ça veut dire que c'est quand même assez figé. Que son premier plan, c'est de
garder Norris.
Mais après, c'est il a jusqu'à fin 2025. Donc,
ça laisse le temps quand
voilà,
même.
C'est ça. Et puis, nouvelle réglementation en 2026. Il y a peut-être aussi une proposition de Dodi qui
pourrait casser
sa tirelire aussi pour avoir Norris.
C'est le meilleur line-up de McLaren depuis très, 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 très longtemps, j'ai envie de dire.
Alonso Button,
oui, voilà,
quand même,
qui était
c'était du lourd. Hein.
Oui. Bah, ça commence à remonter à quelques années, Stéphane.
Oui, ça doit remonter à 2016, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, il a toutes les cartes en main et ce qui est impressionnant chez eux, c'est qu'ils développent bien la voiture, qui ne changera pas l'an prochain. La voiture de l'an prochain sera une déclinaison de la voiture de cette année, avant peut-être une révolution que décidera Rob Marshall ou pas, en disant bah, si on veut maintenant gagner les 4-5 dixièmes qui vont nous rapprocher de Red Bull, on va faire un concept complètement différent. Mais ça sera un énorme risque, mais je pense qu'il le prendra. Bon. En tous les cas, pour l'instant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, souviens-toi aussi, quand Andrea Stella a dit, je crois que c'était, il annonçait que un départ programmé fin 2024 ou 2025 pour Audi, et Zach Brown a dit non, moi je ne veux pas de ça, chacun doit se sentir bien à la maison. Et donc, si tu as envie de partir chez Audi, je te libère tout de suite. Donc, si Norris exprime encore la même appétence pour piloter une McLaren, ça se fera naturellement. Et s'il le sent un petit peu flotter, il le laissera partir. On annoncera peut-être qu'il a signé et qu'il rejoindra Audi à partir de 2026. Mais des contrats signés plus d'un an à l'avance, quand même, ça, il y a eu un ou deux précédents célèbres et qui ont été assez malheureux.
Exactement.
Chez McLaren, il y a eu d'abord Alonso, quand ils l'ont recruté, plus d'un an à l'avance en provenance de chez Renault. Puis ensuite, il y a eu Montoya, et on sait aussi que ça s'est mal terminé.
Bon, juste pour terminer, oui ou non, est-ce que McLaren est devenue la deuxième force du plateau ? Ah, j'ai envie de dire oui, hein, clairement.
Pour l'instant, oui. Et puis, on aura peut-être l'occasion
d'expliciter
ça.
Ouais, on en reparlera
bientôt.
Parce que ça peut être un sujet très, très intéressant à approfondir. Alors, on n'avait pas beaucoup parlé sur le début du week-end des Alpines, hein, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui ont fini 9e et 10e de ce Grand Prix du Japon, après s'être élancé 12e sur la grille pour Pierre Gasly, 14e pour Esteban Ocon. Ce qui a fait parler, c'est surtout la réaction de Pierre Gasly dans le tour de décélération, à qui on a demandé de céder sa 9e place, ou de rétrocéder sa 9e place à Esteban Ocon. Il y a eu beaucoup de gestes dans la voiture. D'aucuns se sont agités pour savoir si il avait fait un doigt d'honneur.
Le doigt du milieu, comme
voilà,
disent
exactement.
Les Anglais.
Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas très intéressant, c'est loin d'être le principal. On refait rapidement l'histoire. Esteban Ocon est victime d'une crevaison très tôt dans la course, dès le premier tour. On le fait rentrer et finalement, il passe à une stratégie à un arrêt. Au final, il y a eu deux arrêts, mais puisqu'il a fallu changer ce pneu. Mais donc, il n'est plus du tout dans une stratégie idéale. Et avec cette stratégie, à un moment, il se retrouve devant Pierre Gasly, qui lui est sur sa stratégie, on va dire, idéal, et qui se retrouve derrière Esteban Ocon, qui va plus vite que son coéquipier. Et finalement, on dit à Pierre Gasly, passe, parce qu'on veut essayer de voir s'il peut aller chercher Fernando Alonso.
Il s'est arrêté 6 tours plus tard, je crois, donc ses pneus étaient plus frais, et puis ça valait le coup de tenter. Peut-être que l'ordre n'a pas été donné de façon assez explicite.
En tout cas, on n'a pas donné la contrepartie de cette autorisation de dépasser Esteban Ocon, c'était que si Pierre Gasly n'arrivait pas à aller chercher Fernando Alonso, il était censé rendre la place. Et dans les tout derniers tours, on entend l'ingénieur de course de Pierre Gasly lui dire « Écoute, il faut rendre la place ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'ingénieur de course le dit, je pense, à 2 ou 3 reprises, c'est une décision du muret. Une façon de se distancier un petit peu de cette décision.
Alors, ce n'est pas du stratégiste, hein, c'est carrément le boss. Hein.
Ah bah oui,
on parle de Bruno Famin, ouais. Qui, toutes les décisions de stratégie sont validées par le boss, de toute façon.
Et donc, Pierre Gasly s'exécute, hein, vraiment à la sortie de la dernière chicane. Et derrière, donc, il y a ce mouvement d'humeur. Ce qui fait donc
avec beaucoup de gestes quand même, on le sentait très
oui, oui,
très,
très
en colère,
très,
comme on l'a jamais
de
vu de toute façon.
On n'a pas eu le son à ce moment-là, mais je pense qu'il devait parler aussi. Donc ça fait au final ça fait Ocon 9 et Gasly 10 au lieu de faire Gasly 9 et Ocon 10. Autrement dit, de toute façon, 3 points pour Alpine.
Ouais.
Ça ne changeait rien sur le résultat, si ce n'est que effectivement Ocon reprend un point à Pierre Gasly. Tout ça pour dire quoi ? Que c'est pour moi la manifestation vraiment d'une équipe qui est à fleur de peau et dans tous les sens. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il y ait un parti pris. Je suis même convaincu qu'on est à peu près neutre du côté de Bruno Famin entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Mais qu'on veut tellement éviter qu'il y ait un incident que là, je me demande si on n'en a pas finalement provoqué un. Alors, finalement, les deux pilotes ne s'en sont pas pris l'un à l'autre. Hein.
On
se tourne plutôt vers le management en disant « Mais vous nous faites quoi ?»
Ouais. Mais alors, oui, globalement, il faudra attention que cette histoire-là ne dégénère pas.
Oui.
On dit aujourd'hui clairement que Gasly n'était pas content envers la décision, donc envers l'équipe. Et aucun des deux pilotes n'a eu un propos, ne serait-ce que tangent par rapport à l'autre. Clairement, donc on est là pour fixer les choses. Tu as dit quand même qu'il n'y a pas de parti pris, mais parfois, il faut rendre des arbitrages. Et Bruno Famin à Suzuka est monté au créneau, en tous les cas, c'est ouvert de la demande de Pierre Gasly d'avoir un cockpit court pour l'année prochaine, sur la voiture de l'année prochaine, parce que tout simplement, Pierre Gasly...
Il est trop loin du volant.
Il mesure 1m77, que Esteban Ocon mesure 1m86.
C'est beaucoup trop grand, 1m80. Si tu fais combien, toi ?
82. Ah. Mais c'est un monde d'écart.
Moi, je fais 1m77 et je peux te dire que c'est la taille idéale.
Non, oui. Mais 9 cm, c'est un monde d'écart. On peut mettre plein de choses et ça modifie même l'équilibre d'une voiture. C'est extrêmement sensible. Mais Bruno Fama a dit, pour ce qui est de l'année prochaine, c'est râpé, c'est fini. La voiture est lancée.
La coque est faite.
Pas en fabrication. Dans tous les cas, tous les fondamentaux sont validés. Alors, Gasly est arrivé dans l'équipe cette année, donc forcément, il prend la voiture qu'on lui propose, et là, maintenant, il va avoir, je pense, le sentiment, à partir de maintenant, de piloter la voiture d'Esteban Ocon. En tous les cas, celle qui a été faite autour d'Esteban Ocon, parce que Alonso était plus petit, c'était lui le plus grand, donc ça, c'était réglé, et c'est ce qu'il faut faire, de toute façon, parce que ça serait vraiment sacrifier de la performance. Un pilote qui n'est pas à l'aise au volant,
c'est impossible.
C'est un pilote, voilà, qui sert à rien, mais en tous les cas, qu'on désavantage vraiment. Bon, et moi, je pense que ce qui est ressorti de tout ça,
c'est vu avec Lewis Hamilton, qui se plaignait de la hauteur dans la
voiture. Aussi, oui, tout à fait, et qui se sent aussi trop près des roues avant. Donc, les pilotes, vraiment, ils sentent à 2 ou 3 cm près, mais Maxi, il n'y a pas besoin de plus qu'ils sont mal installés. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et je pense que Pierre Gasly aussi, maintenant, on est là parce que sa réaction, c'était pas juste épidermique comme ça sur le moment, ça cachait peut-être quelque chose d'autre. Je dirais pas une rancœur,
mais une
frustration petit peu qu'il y avait sur des choses, une petite accumulation. C'est pas grand chose, mais ça veut dire. Bon, il y a eu le crash en essai libre 2 aussi, ça n'ajoute pas à la sérénité. La voiture n'était pas bien réglée après cette première journée. Bref, il était en galère vraiment. Et puis, c'est sa sixième absence en Q3 de suite. Donc tout ça, ça pèse quand même. Alors, il y a quand même des éléments qui sont favorables. Pour l'instant, en duel, en qualification, il est devant Ocon. Je regarde, en 16 qualifs, il mène 9-7. Et il a même un 6-2 sur les 8 derniers Grands Prix. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais je pense qu'il veut passer au step suivant et que là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Moi, j'ai plutôt le sentiment, je suis d'accord avec ce que tu dis, j'ai vraiment le sentiment en fait, que cette équipe-là, elle est sous une pression absolument colossale. Bon, on ne va pas revenir sur les bouleversements de l'équipe.
Non, mais je te signalerai quand même que dans les communiqués officiels, c'est toujours mis Bruno Fama, directeur d'équipe par intérim. Julien Rousse, directeur sportif par intérim. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est en place à titre provisoire et qu'on va nous proposer un autre organigramme. S'ils le mettent ouvertement, c'est qu'on est en phase de transition.
On est d'accord.
Donc, ce n'est pas une équipe qui, pour l'instant, a trouvé son point d'équilibre de façon durable.
Mais bon, en fait,
mais tout fonctionne bien pour l'instant. Mais
tout fonctionne bien. C'est là-dessus que je vais venir.
Voilà,
parce que
on va voir d'autres choses.
On est en difficulté. On voit bien que la voiture progresse au fur et à mesure des week-ends. Ça veut dire qu'on sait faire son travail du côté des pilotes, du côté des ingénieurs. Sauf qu'à chaque fois, on part de trop loin. Et là, l'info, elle a été lâchée depuis quelques semaines. Le simulateur Einstein, il est plus à l'ordre du jour du tout. Quand on arrive, on pose la voiture sur la piste, un petit peu comme ce qui s'est passé pour Red Bull à Singapour. Ça marche pas comme on avait prévu que ça marche. Le problème, c'est que toutes les équipes aujourd'hui, les meilleures équipes, elles savent quasiment, mais vraiment à quelques micro-détails près, comment il faut que la voiture soit réglée pour ensuite aller vite sur le circuit. Et on adapte par rapport aux conditions météo, par rapport au changement de la piste en elle-même avec le gommage et des choses comme ça. Mais là, on est trop loin du compte, en fait. En début de week-end, il faudrait faire le calcul du nombre de places gagnées entre les premières séances d'essais libres et l'arrivée du Grand Prix le dimanche. Et je pense qu'Alpine, ils doivent être champions du monde, hein, parce que à chaque fois, ils gagnent des places, ils progressent.
Et
mais
ils ont même joué.
Ça met de la pression.
Ils sont même trop honnêtes par moment parce que il y avait eu cette directive de la FIA, grosso modo, pour éviter des paquets de voitures au ralenti sur le circuit. Ils avaient fixé une chose très précise. Un chrono maximal à respecter du bout de la pit lane en piste, donc ce qu'ils appellent la ligne de safety car 2 à la ligne de safety car 1, c'est-à-dire juste avant les dernières places de grille, c'était 1 minute 54. On n'avait pas le droit de rouler plus lentement. Et bien, pendant les essais libres, Alpine a joué le jeu, a respecté ça et s'est préparé à ça. Et ils ont même eu des problèmes pour chauffer les pneus, pour les maintenir à température parce qu'ils montaient trop et donc ils les usaient trop vite. Et ils avaient respecté ça et ils se sont dit, bon, ben maintenant, on va voir. Nous, on a respecté ça et on va voir ce qui va se passer en qualif. Et il y en a qui vont avoir des mauvaises surprises.
Ah oui, bon, mais ça, bon, on a bien vu.
Leclerc et les pilotes Alfa Romeo se sont permis de rouler plus lentement encore que ces 1,54. Et là, on s'est dit, sanction. Eh ben non, pas sanction. Donc, en fait, la loyauté n'est pas complètement récompensée dans ce sport. Et c'est quand même dommage. Ils avaient joué carte sur table là-dessus. Bon, voilà. Donc, ouais, ils le sauront pour la prochaine fois. Bien sûr, mais on essaie de faire les choses un petit peu dans les règles. Et puis, voilà. Mais pour revenir à ton propos, Gilles, je comptais, 2016, ça fait 8 ans quand même. C'est la 8e saison complète du groupe Renault sous son nom ou sous le nom d'Alpine en Formule 1. Donc je veux dire, on devrait quand même maintenant être à un stade assez abouti de l'organisation à tous les niveaux. Bon, on sent qu'ils ne se sont pas encore trouvés sur plusieurs postes. Et puis, en deux dimanches quand même, il y a ça, des choses symbolique. Qui me font ça, c'est repenser à Alpine aussi parce que 2016, c'est la prise de fonction de Fred Vasseur comme directeur de la compétition chez Renault. Et au bout de, même pas au bout d'un an, il est reparti en disant « J'étais pas d'accord avec le boss, on avait deux points de vue, je pouvais pas rester là. » Voilà. Donc, il
si
est parti.
Si tu mets Fred Vasseur et puis l'explosion de Piastri au Japon aussi.
On sait ce qu'il a fait chez Sauber avec Charles Leclerc, ce qu'il fait maintenant chez Ferrari, une première victoire. Bon, ça laisse rêveur. Et puis, effectivement, dimanche, à Suzuka, c'est Piastri qui est en première ligne, le pilote qu'ils ont formé. Et qui nous avait dit, non, mais on préfère Alonso. Et tu vois où est Alonso maintenant ? Il est nulle part. Alonso, c'est 3 points, c'est 6 points, pardon, en 3 Grands Prix.
On y reviendra.
C'est un
dans
déclin
un autre,
total.
Dans
bon,
un autre fou du
alors,
volant.
Ça veut dire que y a par moment, il faut faire des choix, il faut sentir un petit peu les choses. Et on les sent toujours chez Alpine dans un entre-deux. Voilà, où on n'y va pas franchement. Et Renault a été champion du monde avec un jeune pilote qu'ils avaient fait monter, qui s'appelait Fernando Alonso. Ça avait fait grand bruit à l'époque, parce qu'il déposait Button, carrément. Bon. McLaren a amené Lewis Hamilton en Formule 1. Ils ont été champions du monde avec lui. Red Bull avait un projet avec Sébastien Vettel. Après, ça leur a permis aussi de rebondir avec Max Verstappen. Ça veut dire qu'il faut prendre des risques. Voilà. Et on n'en prend peut-être pas assez.
Et puis, pour conclure sur le sujet, on a aussi le sentiment que du côté de chez Alpine, on a un petit peu fait son deuil de la bagarre pour la cinquième place du classement des constructeurs. Oui. Et que voilà, maintenant, on va aller chercher la sixième place. Ce qui n'est pas sans conséquence, parce que là, je regardais, je pense qu'il y a entre 10 et 13 millions de dollars de dotation à la fin de la saison entre la quatrième et la sixième place du classement des constructeurs. C'est pas un détail.
Ça pèse dans le budget.
Et ça, ça va mettre aussi beaucoup de pression sur l'équipe. Et ce qui s'est passé là, à l'arrivée de ce Grand Prix, clairement, c'est la manifestation d'une équipe. Parce que là, les images qu'on nous montre, c'est celles de Pierre Gasly, mais je pense que c'est vraiment la manifestation d'une équipe qui est sous une pression extrême. Et ils font, malgré tout, je trouve, ils s'en sortent plutôt bien parce qu'à chaque Grand Prix, ils arrivent à ramener des choses. Alors forcément, par rapport à McLaren qui a explosé complètement, c'est loin du compte.
Et dans un budget café, on le rappelle. Parce qu'il y a des équipes qui disent on ne peut pas progresser parce qu'on est limité. C'est faux.
Regardez,
c'est complètement faux. C'est des choix à faire. Voilà. Mais je redoute simplement le prochain arbitrage. S'il est tendu en piste entre les deux pilotes, il ne ferait pas, on l'a dit, que ça vienne à un conflit de personnes. Parce que j'ai vu cette image qui m'a paru lunaire dans le garage de Monza, où les deux familles, Ocon et Gasly, étaient ensemble. Et l'ancien boss, Laurent Rossi, s'était juré de ne pas les rassembler dans le paddock sur un même Grand Prix. Elles avaient le rendez-vous prévu et elles s'évitaient soigneusement. Oui. Alors, ce n'était pas des questions... On en a parlé à une époque où Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient en froid. Ce n'était pas eux directement, c'était les familles qui ne s'entendaient pas. Parce que deux pilotes qui sont français, qui sont normands, qui arrivent en même temps en Formule 1, on dit souvent qu'il n'y a que de la place pour un, donc il y a certainement eu des étincelles. Mais là, je me suis dit, la nouvelle organisation
aussi.
Mais je me suis dit, là, ils jouent avec le feu. Quand même, potentiellement, j'espère que ça n'ira pas plus loin, qu'on ne va pas retomber dans
ce qu'on a vu, c'est que jusque-là, ça a été géré avec
exactement.
Beaucoup d'intelligence.
Oui, tout à fait. Ils se comportent en grand garçon, en pro, tout à fait. On espère que ça va continuer, mais ils n'ont pas besoin de prendre des risques, je pense, à ce niveau-là.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix du Japon remporté par Max Verstappen et qui a donc permis à Red Bull d'être titré au classement des constructeurs. On va pouvoir souffler, il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain. On va pouvoir dormir jusqu'à 14h du matin. et puis évidemment, on se retrouve nous la semaine prochaine. On a plein de sujets, on en a évoqué quelques-uns. Là, on évoquera pas mal de petites choses la semaine prochaine, histoire de patienter avant. C'est le Grand Prix de Bahreïn, hein, du Qatar
pardon, voilà.
Qui nous attend dans 10 jours. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a encore été très, très, très bavard. Oui. Alors, merci Marion Rabeau qui va devoir travailler là-dessus, essayer de rendre ça le plus intéressant possible. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le contact.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.